Et comme pour un acteur, c'est la personnalité, sa présence.
Franchement, ma chère, c'est le cadet de mes soucis.
Je m'appelle Berlin Noël et j'aime bien les yens.
Come on, guy. We'll be sweet with me.
C'est tellement intéressant de voir la réaction des spectateurs à qui on peut déplaire. J'aime bien frôler les catastrophes.
Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
On a tout vu.
Allez, action!
Action, pourquoi faire?
Ces roulements de tambour, ce générique tonitruant et tous les autres, juste avant le film, le premier que vous choisirez, tout comme votre place favorite dans une salle de quartier, de circuit, qu'importe, le 19 mai, comme la promesse d'un cinéma revenu à ses vraies dimensions, le grand écran. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Mais bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
Jamais depuis son apparition en 1895, jamais le cinéma n'avait vu toutes les salles d'un pays fermées en même temps sur une aussi longue période. Et cette crise sanitaire a profondément bouleversé et l'économie et les certitudes d'un milieu. Bonjour Samuel Douer.
Bonjour.
Rédacteur en chef cinéma Télérama. Avec vous, nous analyserons les conséquences d'un tel bouleversement, notamment le sort réservé à ces 400 films qui attendent désespérément des spectateurs. Une exception européenne, l'Espagne, qui n'a pas fermé ses salles pendant cette année blanche pour tant d'autres. Bonjour Alex Vicente.
Bonjour.
Correspondant d'El País, vous nous raconterez cette exception culturelle. Et les États-Unis, pas mieux lotis que nous, une crise qui a coûté 92 000 emplois à l'industrie et des centaines de salles fermées. C'est ce que nous verrons avec vous, Jordan Minzer, bonjour.
Bonjour.
Correspondant pour le Hollywood Reporter. Enfin, nous vous guiderons à travers nos choix dans cette jungle de films proposés dès mercredi prochain. C'est parti.
Mes chers compatriotes, l'heure est grave. La France, elle est au bord du gouffre. Alors, dans ces circonstances exceptionnelles, j'ai la grande joie de vous annoncer mon retour. Voilà.
Au cinéma?
Hein?
Votre retour au cinéma, Nicolas.
C'est pas le concours de la petite blague, François.
Non, c'est pas la petite blague, mais c'est votre retour au cinéma, oui, dans un film.
Souffrez de m'entendre.
Hein? Ben, je vous entends, je souffre, mais oui. Dites-le, c'est votre retour
je
au cinéma.
Dit, généralement, je fais ce que je dis,
non,
je dis ce
pas
que
dit.
Je fais.
Si, non, non, si, non, vous l'avez si, pas, non, vous l'avez
si,
pas dit.
Si, vous n'êtes pas mon professeur, je suis pas
non,
votre
vous
élève.
Vous n'avez pas à me dire qui je suis ou qui je... Vous n'avez pas dit
je l'ai
votre
dit,
retour au cinéma
c'est un mensonge,
dans une
c'est
fiction.
Une calomnie.
Vous ne l'avez pas dit.
Vous êtes un petit calomniateur.
Nicolas, vous ne l'avez pas dit.
Je sais ce que...
Vous ne l'avez pas dit. Votre retour au cinéma.
Président d'Anne Fontaine avec Jean Dujardin, Grégory Gadebois. L'un des 400 films attendus pour ce retour dans les salles à partir du 19 mai, mais beaucoup plus tard, il est prévu le 30 juin. Avant de revenir sur le sort réservé à tous ces films, arrêtons-nous avec vous trois, Samuel Douer, Jordan Minzer et Alex Vicente, sur les pertes infligées et les victimes, producteurs, distributeurs, exploitants. Finalement, quels sont les plus à plaindre, Samuel Douer, dans l'histoire? Ah, en dehors des spectateurs.
Ah, je dirais les distributeurs et les exploitants, en fait, parce que malgré tout, paradoxalement, ça a continué à tourner le cinéma français depuis mars de 2020. Mmh. Il y a vraiment eu 2 mois d'interruption forcée à cause du premier confinement. Ouais. Mais sur une année, il y a eu environ 20% de films en moins qui ont été tournés et ça correspond grosso modo aux 2 mois de fermeture. Donc, grâce notamment au fonds de soutien du Centre National du Cinéma, et les productions ont pu continuer à se faire, vaille que vaille, avec un bémol, c'est-à-dire qu'il y a eu en même temps une baisse des financements de l'ordre de 30%. Donc il y a eu moins de films, et surtout avec un peu moins de films, mais surtout avec des budgets plus réduits.
Notamment des télévisions qui ont vu leur budget publicitaire baisser.
Oui, de fait, les sources de financement se tarissent petit à petit, puisque il y a eu moins de publicité, moins de chiffre d'affaires, et donc la contribution des chaînes de télévision est dépendante de leur chiffre d'affaires, donc forcément moins d'argent à reverser au cinéma.
Pour les distributeurs, c'est la cata en revanche.
Alors pour les distributeurs, ce qui est très compliqué, c'est qu'en général, ils se financent avec les films qui sortent, ça leur donne du cash pour financer les films d'après. Donc là, les films ne sortant pas de rentrée d'argent, donc pas de possibilité de financer des films à venir. En fait, pour les distributeurs et pour la production, le vrai problème, ça c'est pas forcément cette année, ça sera l'année prochaine.
Oui.
Puisque là, il y a des films qui arrivent, il y a des films en stock. Les films qui ont été tournés l'an dernier, ou jusqu'à début d'année, ils vont arriver bientôt. Par contre, comme il n'y a pas eu de rentrée de cash pour les distributeurs pendant presque un an, ils ne peuvent pas financer des nouveaux films, quoi. Donc, on va sans doute voir les conséquences de cette crise sanitaire avec un effet retard plutôt pour 2022, fin 2022, début 2023.
En revanche, conséquences directes pour les exploitants.
Pour les exploitants, zéro rentrée.
Ouais.
Alors là aussi, le CNC a fait le boulot. Il y a quand même eu un fonds de soutien. Oui. Les aides du gouvernement, par ailleurs, pour toutes les entreprises. Qui ont permis, en tout cas pour tous les salariés des cinémas, de toucher du chômage partiel. Pour les gérants, eux, ils ont fait comme ils ont pu, en fonction de une petite aide qui forcément n'a pas forcément compensé toutes les pertes de leur exploitation. Mais voilà.
A priori, pas de fermeture de salles en France.
Non, il y a même
tous les cinémas. Et il y a même des créations.
Il y a beaucoup de créations. Oui, il y a eu des chantiers de cinémas ont profité de la fermeture pour rénover, pour faire des travaux.
Oui.
Et il y a eu des créations. Il y a eu des travaux de nouveaux cinémas qui se sont lancés. Donc il y a quand même un optimisme, malgré tout, pour le cinéma français.
Pourtant, beaucoup de leurs recettes sont fondées sur les confiseries. Lesquelles confiseries ne seront pas acceptées, je pense, à partir du 19, enfin jusqu'à fin juin, quoi.
En théorie, oui. Alors, c'est très ambigu, parce que tout dépend si on considère que c'est de la vente à emporter ou pas. Enfin, ils n'étaient pas sûrs à 100% non plus. Effectivement, moi, quand je lis les textes, j'ai l'impression que c'est interdit, les confiseries, jusqu'à fin juin. Et donc là, quand toutes les restrictions seront levées, il semblait qu'à la Fédération nationale des cinémas français, on essayait de jouer sur les mots. On va voir ce que ça donne, quoi.
Le 19 mai, donc en même temps que les musées et les théâtres, les cinémas vont rouvrir, mais avec une capacité que de 35%, dans le détail, deux fauteuils libres de part et d'autre de chaque spectateur ou groupe de 6 spectateurs, et ça jusqu'au 9 juin, où on retrouvera 65% d'exploitation, et le 30 juin, 100%. Le couvre-feu à partir de 20 jusqu'à 21h jusqu'au 9 juin.
Voilà, à partir du 19 mai, donc le couvre-feu passe à 21h.
On n'a aucune info sur le ticket Eurodateur, la preuve qu'on sort d'un musée de cinéma.
Non, c'est la Fédération nationale des cinémas français, l'Association française des cinémas d'art essai ont demandé à bénéficier du système du ticket qui permet de sortir un peu plus tard, comme ça s'est fait en Guyane, où apparemment ça s'est bien passé. Alors en Guyane, il n'y a que 2 cinémas, je crois, donc c'était plus simple peut-être à organiser. Pour l'instant, le gouvernement dit non ou ne répond pas. Ils espèrent jusqu'à la dernière minute. J'ai peur que malgré tout, on rouvre les cinémas le 19 mai avec donc la fermeture des cinémas, quoi qu'il arrive, à 21h, ce qui fait que la séance du soir commencera à 19h15 au plus tard si le film est court, quoi.
Il y en a une qui attend depuis longtemps sur les starting blocks, c'est Valérie Lemercier. On va écouter un peu de la bande-annonce d'Aline.
Faut que tu guérisses.
Je suis pas malade, maman. Je tombe en amour. Puis je suis sûre que lui, c'est pareil.
Vous avez pas compris que pour ma petite princesse, c'est un prince qu'il lui faut. Pas un vieux pruneau bronzé qui a 3 fois son poids, 2 fois et demi son âge et qui est 2 fois divorcé.
Une.
Il y a beau avoir le monde entier dans la salle, c'est pour lui que je chante, maman.
Everywhere I go.
Cette folie-là, on va pas la faire, Aline.
Garde-moi. Bien droit à mes yeux. Puis dis-moi que tu m'aimes pas.
On a lane I've never seen.
Bon, Aline, en fait, va sortir le 10 novembre prochain, énormément attendu. Tout ça pour parler de ces 400 films qui sont sur les étagères, les fameux 400 films sur les étagères. En fait, Samuel Duhart, ça va être la loi de la jungle. Alors qu'il devait y avoir consensus, ça va être la loi de la jungle.
Ah, c'est absolument ça. Alors, il y a eu des tentatives de concertation, surtout à l'initiative des petits distributeurs, des distributeurs indépendants. Le CNC était d'accord pour faire cette médiation. L'autorité de la concurrence, pour une fois, a accepté qu'il y ait des entorses temporaires à la concurrence. Donc, a priori, il y avait tout ce qu'il fallait pour faire une concertation et permettre un étalement des sorties raisonnable. Et évidemment, ce qui était prévisible, c'est que les gros distributeurs, les Américains, mais pas seulement, aussi les gros distributeurs français, Gaumont, UGC, Pathé, ont aucun intérêt à ce qu'il y ait cette régulation. Donc, eux, ils ont fait de la politique de la chaise vide, ou quasiment. Et puis, donc, il y aura zéro concertation. Et donc, tous les films vont arriver un petit peu dans le désordre.
Il faudrait, écouler ce stock, il faudrait 50 à 60 films chaque mercredi.
À peu près, c'est ça. Oui, donc c'est rigoureusement impossible.
Impossible.
Puisque déjà, on est à une moyenne de 13 à 14 films en temps normal.
En temps normal, oui.
Donc là, à partir du 26 juin jusqu'à Cannes, en gros, ça sera environ 20 films par semaine, à peu près, et je parle pas des reprises. Donc oui, c'est déjà très très compliqué à absorber.
Et pourtant, Roselyne Bachelot, sur notre antenne, a parlé d'un problème de riches.
Oui, alors c'est elle a multiplié les paroles malheureuses quand même, Roselyne Bachelot, ces derniers temps.
C'est curieux.
J'avoue que le problème de riche, ça va pas être très très apprécié, non. Je pense, par les distributeurs, non. Et les producteurs qui donc rament quand même depuis un an, et tout comme les exploitants d'ailleurs.
D'ailleurs, elle a dit on a une fenêtre par rapport aux blockbusters qui ne sortiront pas avant la rentrée, mais c'est pas vrai, il y en a qui vont sortir cet été.
Il y en a. Moins que prévu, mais il y en a quand même quelques-uns d'assez costauds. Il y aura le film Sans un bruit 2 très, très vite. Il y aura Cruella, une production Disney adaptée des 101 Dalmatiens. Il y a d'autres dessins animés, des gros dessins animés. Dès le 19, il y a Tom et Jerry, par exemple, ouais. un dessin animé universel qui arrive. La seule chance pour les films français, c'est qu'il y avait deux gros films Disney qui devaient sortir en juin. C'était Raya et le dernier dragon et le nouveau film Pixar, Luca, qui en fait vont sortir directement sur la plateforme de streaming Disney+. Donc ça va libérer beaucoup d'écrans. En sens inverse, pour les exploitants qui comptaient beaucoup sur ces films-là pour faire beaucoup d'entrées, faire venir des jeunes, eh ben ils vont perdre tout ça.
Donc, ces jeunes n'iront pas voir d'autres films français. Donc j'en ça ne fait pas peur. Venir, ben bien sûr.
Les Américains ou les Avengers, eh ben nous, on a les Tuches 4.
Est-ce qu'on peut ?
Noël, c'est comme les frites ! C'est quand on veut !
Bonjour, c'est nous les Tuches.
D'après.
On est de retour à Bouzeux.
Travailler,
c'est nul.
Exactement.
C'est le moment de préparer Noël en famille.
Dis-moi ce qui se passe, moi je suis couru.
Je voudrais que ma sœur soit là aussi.
Le problème, c'est son mari, ce con Jean-Yves.
Oh oui, ça va. Vous êtes chamaillés là, tous les deux, là, pour des conneries, il y a 10 ans.
Alors, Marteau, t'as toujours autant travaillé ?
Je me régale, ces magasins.
Enfin, j'ai commandé une pizza chez Magazone, ils m'ont jamais livré. C'est une pizza 8 fromages, enfin 2 pizzas 3 fromages.
2 fois 3, ça fait 6.
Prouve-le.
Non !
Vous voulez rabibocher, les beaux frères ennemis ?
Qu'est-ce que je disais déjà ?
Devant, bon, j'écoutais pas.
Non ! Bon, j'avoue, ça me fait rire. Vous aussi, Samuel, ou pas du tout ?
Les Tuches, je suis assez peu sensible.
Vous avez le droit, Samuel, de ne pas rire.
Je le disais en ouvrant cette heure, il y a une exception culturelle en Europe, ça s'appelle l'Espagne. Pourquoi l'Espagne n'a pas fermé ses salles, Alex Vicente ?
Parce que, tout simplement, je pense que l'État espagnol n'avait pas les revenus nécessaires pour couvrir la fermeture de salles sans que des milliers d'emplois disparaissent dans la foulée. Donc c'est un peu la différence entre la France et l'Espagne, sans parler des problèmes de riches comme l'a fait la ministre de la Culture, mais c'est vrai que dans les cadres européens, aucun secteur culturel a été soutenu à la même mesure que la France, quoi. Donc je pense que c'est tout simplement pour des raisons budgétaire, donc quitte à faire le choix entre la fermeture totale et l'ouverture partielle, ils ont fait le choix de l'ouverture partielle.
Du coup, les films espagnols en ont profité ou pas ?
Tout à fait, si, parce que en fait, comme c'était arrivé en France à la rentrée 2020, l'absence de blockbusters, l'absence de grosses machines américaines a laissé une place qui a été occupée par des films plus petits, plus indépendants, plus fragiles.
Comme
par exemple, dans les cas espagnols, oui. Deux films qui ont un peu marqué l'année cinéma en Espagne. Tout d'abord, Las Niñas, un récit d'initiation inspiré de la jeunesse de la réalisatrice qui s'appelle Pilar Palomera. C'est son premier film. Elle a remporté le Goya du meilleur film, donc les prix du cinéma espagnol, le César espagnol. Et ensuite, un documentaire qui s'appelle El año del descubrimiento, qui a fait un carton, alors que c'est un film de 3h30, avec une grammaire assez alambiquée, assez pas du tout grand public, disons. Bah, curieusement, les deux films partent des années 90 en Espagne. Le documentaire parle de la fermeture des usines en 92, au moment où l'Espagne rayonnait, on disait que c'était un pays moderne, un pays dynamique, enfin, après la période franquiste, le passage en démocratie et tout ça. Donc, à la lumière des Jeux Olympiques à Barcelone, de l'exposition universelle à Séville, on parlait d'un pays moderne et dynamique. Et en même temps, il y avait une énorme crise sociale avec toutes les industries qui fermaient. Donc, les deux films participent d'une certaine manière d'une relecture critique des années 90 en Espagne.
Et j'ai deux questions. Est-ce qu'il y avait une jauge et est-ce qu'on pouvait manger des churros ?
Des churros, ça m'étonnerait car c'est pas trop espagnol de manger des churros dans les salles de cinéma. En revanche, les confiseries, pour information, Laurent,
bien sûr, bien sûr.
Au cas où vous voulez manger des churros dans une salle espagnole.
Ça se fait
pas trop, non. C'est pas dans le protocole, disons. Après, les confiseries n'étaient pas interdites, donc on pourrait manger des pop-corn.
Et plus sérieusement, les jauges ?
Et les jauges, c'était à 50%. Après, voilà.
Et la baisse, il y a une fréquentation qui n'a pas baissé de façon
drastique. Si, c'était quand même une année catastrophique. D'accord. L'année 2020 pour l'Espagne, c'est ce que j'allais dire, car même si on a gardé une relative normalité une normalité relative, il y a eu évidemment moins de sorties, un peu de fonds de tiroir des dernières années, de petits films européens, peu de films hollywoodiens, donc peu de grosses machines, comme je disais.
Vous avez eu un film français qui n'est pas encore sorti chez nous, qui est sorti chez vous, c'est La Nuée.
La Nuée, tout à fait, de Juste Philippot, qui est sorti. Bizarrement, il a retrouvé le chemin des salles en Espagne avant de le retrouver en France. Mais bon, c'était une sortie quasi confidentielle aussi, avec très peu de copies en Espagne. Donc en tout, tout cela a entraîné quand même une chute des revenus des exploitants de 72% en 2020. Et ça s'est pas rangé visiblement pendant le premier trimestre de cette année.
Une tentation aussi pour des films espagnols d'être sur Netflix ou d'autres plateformes ?
Oui, après en Espagne c'est un peu différent car il n'y a pas la loi de la chronologie des médias, donc les exploitants ont le droit de projeter des films Netflix en salle. Ça veut dire que, je sais pas, le dernier Scorsese est sorti à la fois et sur Netflix et en salle en Espagne, ou le dernier David Fincher est sorti à la fois et dans les salles et sur la plateforme. Donc c'est un peu la loi de la jungle, comme vous disiez tout à l'heure, sur pas mal de plans. Donc il y a moins ces cas de figure de films rachetés par des plateformes, même s'il y en a, certains. Mais c'est ce qui cartonne en Espagne, surtout sur les plateformes, c'est les séries espagnoles quand même, comme vous le savez.
Samuel Dua, par exemple, pour revenir à Netflix et la France, Carole Scotta, productrice et distributrice, dit « c'est bien gentil, mais Netflix n'accepte pas les films d'auteur. Et les films d'auteur ont besoin de la salle et des festivals. »
Oui, complètement. Netflix a... Parce que le CNC a accepté de faire une dérogation, de ne pas demander s'il est un distributeur renonce à sortir un film en salle et le vend à une plateforme comme Netflix ou Amazon. Il devait rembourser toutes les sommes qu'il a touchées par ailleurs, et notamment les subventions publiques du CNC. Et en fait, le CNC a dit « non, bah, c'est pas grave, on fait une croix dessus, quoi. Vous pouvez garder. C'est pour faciliter la vente des films aux plateformes. » Je pense que l'effet sera tout à fait marginal, puisque, effectivement, Carole Scotta a raison. Netflix s'intéresse à des films très particuliers. Donc là, ils ont racheté le film de Sylvie Verret sur Madame Claude.
Oui.
On peut considérer que c'est un film d'auteur, mais sauf que ce qui a plu à Netflix, c'est Madame Claude.
Bien sûr.
Voilà, la prostitution en France dans les années 70. Ouais. Voilà, donc c'est sûr, ça c'était un produit porteur. Pour le reste, ils vont pas racheter un petit film d'auteur français, certainement pas.
Si on passe au territoire anglo-saxon, il y en a un qu'on attend effectivement énormément, c'est qui a été sans cesse reculé, c'est James Bond, de Mourir peut attendre, qui portait bien son titre, qui sera finalement prévu le 6 octobre de cette année. On écoute la bande-annonce.
Name?
Bond.
James Bond.
So you're not dead?
Hello, Q, I've missed you.
It's the most valuable asset this country has. If you feel yourself losing control,
I'm not going to lose
control.
James, you gave up everything for her. When her secret finds its way out, it'll be the death of you.
What is it?
You don't know what this is.
James Bond.
Mourir peut attendre, mais le voir, plus attendre, Jordan. Vous avez des échos un peu sur ce Bond?
Mais c'est un film qui a été, la sortie a été reportée plusieurs fois. Mais d'après ce que j'ai compris, quand il va sortir enfin à l'automne, aux États-Unis, en tout cas, il va sortir en salle, mais 2 semaines et demie après, ça sera disponible en VOD, en streaming. Et en fait, c'est ça la grand changement de cette année, c'est que presque tout le studio maintenant a une politique de sortir le film à la fois en salle, et soit en même temps en streaming, soit avec un petit délai, mais il n'y a plus du tout de chronologie de médias. Il n'y a jamais eu une loi nationale, c'était des accords entre le studio et les exploitants, mais tous ces accords ont été éclatés par Covid, notamment avec Warner Brothers, HBO Max, où ils ont décidé de mettre tout leur programme de 2021 de sortir ça à la fois en salle et en ligne. Et en fait, les autres studios ont fait la même chose. Et aujourd'hui, on a une situation aux États-Unis, il y aura ce qu'on appelle des day and date de sortie simultanément en salle sur le petit écran. Donc d'ailleurs, la petite musique de Fox avec qui vous avez commencé l'émission, je pense que la plupart des Américains, ils vont l'entendre chez eux et pas au salle de cinéma. J'aime pas jouer le rabat-joie.
Vachement quand même. Hein.
C'est un peu comme ça.
Alors, Didier Allouche, notre correspondant, a fait ce doc, ce très bon doc qui s'appelle Covidwood.
Oui.
L'année où Hollywood s'écroula, on va dire. Il raconte notamment dans son introduction que 92 000 emplois en moins, et surtout des centaines de salles qui vont fermer, et qui vont fermer définitivement dans une salle mythique à Los Angeles.
Exactement. En fait, il y a le Cinerama Dome, qui est une salle de Los Angeles qu'on a pas mal vu, même dans des films, notamment dernièrement dans le film de Tarantino, c'est une fois en Hollywood. On voit la salle, c'est un dôme avec un écran panoramique. Et c'était vraiment une salle qui a été construite pour accueillir les grosses productions hollywoodiennes des années 60 avec le processus de Cinerama. Donc, en gros, comme de grands films en cinémascope. Et cette salle fait partie d'une chaîne qui, maintenant, cette chaîne est en faillite.
Arclight Cinema.
Voilà, ouais. Arclight, qui est possédée par une autre chaîne qui s'appelle Pacific Theaters, c'est 300 écrans à Los Angeles, et aujourd'hui ils sont en faillite, ils vont pas rouvrir, et ils attendent que quelqu'un peut-être va racheter
Netflix.
Mais on a parlé de Netflix parce que Netflix a quand même acheté deux salles légendaires aux États-Unis. Ils ont racheté The Paris Theater à New York en 2019, et aussi Groman's Egyptian Theater à Hollywood.
Quel est leur intérêt de racheter des salles?
Mais je pense qu'il y a vraiment un intérêt, c'est que pour avoir des films pour qualifier pour les Oscars, il faut que le film, normalement, avant Covid en tout cas, soit présenté en salle.
Donc et puis symboliquement aussi, j'imagine que c'est important d'occuper ces terrains-là.
Exactement, celui de la cinéphilie. Surtout des salles légendaires, parce que Groman's Egyptian Theater, c'est la salle où en 1922, c'était la première avant-première Hollywood dans l'histoire d'Hollywood. Et maintenant, c'est une salle Netflix où ils vont programmer leurs films destinés aux Oscars, en fait.
Il y a des cinéastes qui s'y sont mis à ces plateformes. Notamment, on pense à Scorsese ou même à Fincher avec Mank, et lequel Scorsese va continuer avec Apple TV,
où il fait son prochain film avec un budget de 200 millions de dollars.
C'est inespéré pour lui. Il n'avait plus l'espoir d'avoir de tels budgets.
C'est que son dernier film, en fait, de Netflix, où pareil, c'était, je crois, l'Irishman, c'était 180 millions. Là, c'est 200 millions, 7 mois de tournage, qui est énorme. On ne fait plus du tout de tournage comme ça à Hollywood, avec tous ces acteurs, De Niro, DiCaprio.
En fait, ce n'est pas pour ou contre Netflix, c'est je veux faire du cinéma comme j'aime, selon lui.
Mais oui, et ils ont
fichent à la limite de la...
Mais ils ont une carte blanche, en fait. Les plateformes sont prêtes à surpayer pour leurs films, pour avoir leur nom sur la plateforme pour attirer en fait des abonnements tout simplement. Donc si le Scorsese sur Apple TV, je vais prendre un abonnement à Apple TV. Alors, moi, c'est logique. Là, il y a eu quand même cette année un des plus gros deals, je crois, de l'histoire d'Hollywood. C'était pour le partie 2 et 3, les suites de la série À couteau tiré, Knives Out de Rian Johnson, un film avec Daniel Craig.
Oui.
Dont le premier film a coûté 40 millions de dollars et a gagné environ 300 millions au box-office. Netflix, ils ont mis 470 millions de dollars pour le 2 et le 3. Le 2 va être en tournage bientôt. Et en fait, c'est pas des films qui coûtent a priori très cher à faire, parce que c'est un peu des films à la Agatha Christie. Donc, c'est clairement que cet argent va aller directement au producteur et à Daniel Craig.
Ça veut dire quoi sur le paysage américain du cinéma, tout ça?
Mais ça veut dire que pour certains auteurs, ils sont très gagnants, en fait, avec le nouveau système de plateforme et avec tout l'argent qu'on peut jeter dans le cinéma. Donc, si on a déjà un nom, on est un peu reconnu, on peut doubler ce budget, on peut profiter énormément. Après, pour d'autres auteurs qui sont peut-être moins reconnus par la plateforme pour l'instant, il n'y a plus du tout de financement. Oui. C'est-à-dire que si on ne peut pas plus sortir un film en salle, comment on finance un film? Et c'est ça le problème. Donc le plus petits films ou le film moyen, comme on dit, le film de milieu, ils vont clairement perdre.
Mais il y a des irréductibles, hein. Il y a James Gray, Paul Thomas Anderson, c'est des types qui résistent à ça.
Pour l'instant.
Steven Spielberg aussi. Il a vraiment des paroles très très dures sur les plateformes, et notamment sur Netflix. Le film à couteau tiré. C'est typiquement un petit film qui a eu un succès inespéré, et on pourrait se dire que le studio qui l'a produit fasse la suite, gagne encore beaucoup d'argent avec ça, qui lui permet de prendre des risques sur d'autres films. Or, Netflix s'accapare avec des sommes totalement délirantes et empêche les studios qui déjà sont assez frileux de prendre de nouveaux risques, puisque ce qui a priori leur rapporte de l'argent, ils ne l'ont plus, quoi.
Exactement, parce que le studio qui a financé le film, ils avaient le droit, en fait, de préemption, si on veut, de prendre le 2, mais ils n'avaient pas assez d'argent. Netflix pourrait mettre 10 fois plus.
En France, on va avoir un très beau film qui a coûté pas mal d'argent, je crois, c'est Annette de Léos Carax, qui va ouvrir le Festival de Cannes.
First time I fell in love. Woke up next to the girl. And skate. Fast and far. The man has changed me. What I see in her is obvious. What she sees in me is... it's a little more puzzling.
One, two, three, four!
Samuel Douer, ça a l'air d'être une belle ouverture, ça, Léos Carax, Annette, ça présage. Non, mais ça veut dire que le cru, comme on dit, bêtement, 2021 peut être pas mal parce qu'il y a un an et demi de films en attente.
Oui, c'est exactement ça. C'est ce que nous a dit Thierry Frémaux, à qui on a pu parler la semaine dernière. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a, une année normale, l'année 2021, et le gros reliquat de l'année 2020, puisqu'il y a certains films qui étaient programmés pour Cannes
c'est ça,
2020 qui vont revenir là.
C'est ça, c'est tellement important, Cannes qui se retiennent pendant un an.
C'est le cas d'Annette. Il y a le cas du film de Paul Verhoeven, Benedetta, et il y a le film de Nanny Moretti aussi, très pianiste.
Le pianiste. Qui va venir. Aussi, le voisin d'Anderson.
Alors voilà, qui a priori sera à Cannes, c'est pas encore sûr à 100%, mais enfin, il devrait y être, effectivement. Il y en a sans doute d'autres. Donc c'est vrai que rien que déjà ces trois ou quatre noms très prestigieux, ça donne quand même le ton d'un cru qui devrait être aussi bon que celui de 2019.
Voilà, si Cannes a lieu du 6 au 17 juillet prochain.
Pardon, je veux juste faire le rabat-joie encore pour dire que le film de Léos Carax, c'est quand même un film Amazon aussi. Aux États-Unis, c'est Amazon qui va distribuer le film.
C'est un gros budget, effectivement, où Amazon a mis beaucoup d'argent pour permettre au film de se tourner.
Et ça s'appelle vraiment Covid de l'année où Hollywood s'arrêta, le doc de Didier Allouche qui est toujours visible sur le site de Canal+. On va faire un entracte avec une attraction, c'est Bertrand Burgala, l'homme idéal, et on se retrouve pour un petit peu dresser une piste dans cette jungle de films qui sortent mercredi prochain.
C'est l'été, saison des concupiscences, le soleil te réchauffe l'essence, des tentations bronzées te font l'enfer. Moi seul, je regarde la mer. Oui, car l'homme idéal, c'est moi. Encore faut-il trouver quelqu'un qui me mérite. L'homme idéal, c'est moi. Le sort a dit, ce serait toi. Projectiles m'ont fendu l'occiput, des choses qui arrivent dans les disputes. Mais les disputes, ce n'est pas cher payé. Si je peux te ensuite se réveiller, l'homme idéal, c'est moi. Il fallait désigner quelqu'un. L'homme idéal, c'est moi.
j'ai qu'à dire, ce serait toi.
Bertrand, à quoi vous pensez le soir en vous couchant?
Souvent, on me demande mes trucs.
C'est quoi vos trucs?
Mon secret.
Vos secrets.
En un mot, comment je fais pour être ce que je suis?
Comment vous faites pour être
ce que je réponds généralement. Si je le savais, du coup, je ne le serais pas.
Ah bon?
Eh oui, forcément.
Si vous
je vous laisse cogiter à ça.
Garniture à pizza.
Lancer des ports, j'ai bien peur qu'il en reste encore. Jamais n'ai-je tenté le harcèlement. Ici on fait de l'art seulement. Dès lors, l'homme idéal, c'est moi. Longtemps cherché quelqu'un qui m'a éteint. L'homme idéal. De suite, ce serait toi. Because l'homme idéal, c'est moi. La vie est courte, donc savoure et profite. L'homme idéal, c'est moi.
Et on va venir avec chacun de vous, Samuel Douer, Alex Vicente, Jordan Minzer. Les cinémas réouvrent le 19 mai. J'aimerais bien que vous nous conseilliez des salles en France. Samuel, vous allez où quand vous n'êtes pas à Paris et vous allez où au cinéma?
Alors, il m'arrive de retourner dans ma ville natale,
ouais,
qui est Dijon, et j'ai grand plaisir à aller voir des films dans les trois salles de l'Eldorado,
ouais,
qui est le cinéma d'art et essai de la ville historique. Une salle qui me tient particulièrement à cœur parce qu'elle a fait grandement l'amoureux du cinéma que je suis, parce que j'y ai usé beaucoup de mon argent de poche
un
quand
choc,
j'étais jeune là-bas.
Un choc en tête à l'Eldorado.
Alors, dans les classiques, j'avais vu Le Tigre du Bengale et Le Tombeau hindou de Fritz Lang là-bas.
Ouais.
Ça m'avait beaucoup impressionné. Et les Monty Python, les Sacrés Graals. J'étais peut-être un peu trop jeune, mais le film m'avait beaucoup plu.
Une salle en Bretagne, à Pémard.
À Pamard. Donc, c'est la salle de l'Ecmul. Une salle que j'ai découverte en allant en vacances là-bas et qui m'a beaucoup séduit parce que c'est une salle municipale, donc dans cette petite commune très dynamique du sud-ouest du Finistère, donc en plein pays bigoudin.
Oula, on est précis.
Et qui est animée par un programmateur formidable qui s'appelle Benjamin Fourneau et qui a compris qu'en fait, pour que les cinémas puissent vivre, il fallait vraiment faire des événements en permanence.
Mmh.
Et donc, il fait beaucoup, beaucoup de cycles, parfois très pointus. Par exemple, l'été dernier, il y avait un cycle sur le cinéma latino-américain. Il projette, il essaie d'avoir des films grand public d'art et essai, et aussi des films extrêmement pointus, une programmation aussi très axée sur les enfants. Enfin, c'est vraiment une salle formidable, hyper dynamique.
Laurent, je suppose que vous avez choisi le Sud comme salle.
Ben oui, moi c'est Uzès dans le Gard, c'est le Capitole, c'est l'un des plus vieux cinémas de France, hein, quand même, 1911.
Ouais.
Et c'est aussi le premier multiplex de France, parce que c'est le premier à avoir eu deux salles et non pas un écran. Donc, il a appartenu notamment à Michel Biribi, qu'on avait reçu ici,
oui,
même. Maintenant, c'est Jean Rochas qui tient les commandes, et c'est comme le disait Samuel, c'est un cinéma qui vit parce que c'est extrêmement dynamique, ça mêle beaucoup de genres cinématographiques, il y a 12 à 15 films différents par semaine qui tournent en quelque sorte, donc c'est vraiment effectivement un vrai lieu culturel, avec en plus un immense bar qui date de 1911, c'est aussi un des attraits du Capitole, c'est qu'on a envie d'y rester longtemps.
Dans une église, un cinéma à Bordeaux, Alex Vicente.
Tout à fait, j'ai choisi une salle très atypique, l'Utopia de Bordeaux,
ouais,
créé dans les murs d'une ancienne église du XIVe siècle, l'église Saint-Siméon. Et il y a cinq salles différentes, mais je préfère la plus grande salle où l'on voit les films sous la charpente en bois,
mais oui,
de l'église, avec des fresques sur les murs, donc qui risquent de faire de la concurrence déloyale aux films qu'on voit projetés à l'écran. C'est quand même un endroit complètement magique qui a fasciné pas mal de réalisateurs. Je pense que ça a été inauguré en 99 par les frères Dardenne, et puis il y a eu pas mal de pérégrinages de cinéastes.
Jordan l'Américain, c'est une salle en Loire-Atlantique.
Oui, je pensais que c'était la Bretagne, mais Samuel m'a corrigé gentiment.
Ne nous mettez pas mal.
Pour me dire que c'était en Loire-Atlantique.
Oui,
c'est le cinéma atlantique à la Turballe,
ouais,
qui est juste à côté de la mer, une ville sur la mer. Et c'est une salle d'art essai vraiment régionale avec une super programmation. Et j'ai eu le plaisir, un petit film que j'ai produit il y a quelques années qui s'appelle Putty Hill. Et un jour, j'étais en vacances l'été et j'ai vu que le film passait là-bas. Je n'étais pas allé le voir, mais ça m'a quand même fait bien plaisir.
Et vous, Christine?
Moi, j'ai choisi une salle à Montmartre, le Studio 28, l'une des plus anciennes salles de quartier. Non, elle a été inaugurée le 10 février
mythique.
28, première salle
mythique
de cinéma d'avant-garde,
bien sûr,
dont l'écran a été brûlé après la projection de L'Âge d'or de Buñuel. et qui reprojette maintenant ce qu'on appelait des films de deuxième ou troisième fenêtre, mais comme les films restent très peu de temps à l'affiche, on a très rapidement les films. C'est le film dans le cinéma dans lequel a été tourné Amélie Poulain, notamment. C'est une salle merveilleuse, et les appliques sont signées Jean Cocteau, s'il vous plaît. Non, non, elle est fantastique, cette salle. On va passer maintenant à vos choix, parce que mercredi qui arrive, il y a beaucoup de choses. Donc, on va commencer avec vous, Samuel. Vous avez choisi ce film de Klaus Drexel, Sous les étoiles.
Sous les étoiles de Paris.
De Paris, pardon.
En fait, oui, alors, on a parlé du manque de concertation pour les sorties. Ce qui était prévu à l'origine, c'était que la première semaine soit réservée aux films qui avaient été victimes du reconfinement. Donc, les films sortis en octobre et qui n'auraient pas pu faire la carrière qu'ils auraient dû faire. Donc, Sous les étoiles de Paris fait partie de ses victimes. Le film est sorti en salle le 28 octobre 2020 et donc le 29 octobre, les salles de cinéma fermaient. Mmh. Alors, j'aime beaucoup ce film parce que Klaus Drexel est un très bon documentariste. Là, c'est sa deuxième fiction. Et le film retrouve un peu ses thématiques, c'est-à-dire la marginalité.
Oui,
c'est l'histoire, c'est un conte de fées social sur une sorcière, si on peut dire. C'est une sorte de domicile fixe jouée par Catherine Fro qui va prendre sous son aile un petit pousset, un petit migrant dont la mère a été arrêtée par la police française et va être expulsée. Et donc elle va essayer de retrouver la mère pour que cet enfant puisse retrouver sa mère. Donc c'est une chronique dans Paris, dans les centres de rétention, à Orly, où on suit entre réalisme et onirisme. Ce film est très très réussi et très émouvant.
Jordan, vous avez choisi un film de Quentin Dupieux, Mandibule. Tiens, on va écouter la bande-annonce de un petit extrait de Mandibule.
Ouais, bah, t'as entendu ça? C'est strange, non? Ouah, c'est une mouche? Mais non. Ah si, putain, c'est une mouche.
Pourquoi on sert pas de la mouche, là, pour se faire de l'oseille?
Bon, on l'adresse comme un singe. On peut l'envoyer, tu vois, dans une banque pour nous ramener le pognon de la banque. Et nous, on fait rien. On l'apprivoise. Pfff.
Frédéric Breton, mais c'est fou de se voir.
Hein? C'est quoi ce plan là? D'où tu connais ces gonzesses, toi?
Je les connais pas, je sais pas qui c'est. Il y en a une qui me prend pour un autre mec, c'est tout, hein. Oh, le truc, ok ou quoi?
Je les ai invités pour combien de temps, les deux crados, là?
Ce soir, j'ai préparé des paupiettes de dinde!
Elle a eu un choc au cerveau après un accident de ski. Depuis, ben, elle parle comme ça, quoi.
Bon appétit à tous!
Jordan, donc ce petit film drôle, surréaliste, ciné, Quentin Dupieux, qui est un peu, qui poursuit la même ligne depuis le départ.
Oui, mais je suis là, j'ai trouvé que c'était un petit peu différent parce que c'est la première fois qu'il a tenté ce qu'on appelle aux États-Unis body comedy, vraiment l'histoire de deux potes, une comédie de potes qui et ça m'a beaucoup fait penser surtout au Dumb and Dumber, le film de Frère Farrelly, parce que c'est effectivement le Dumb and Dumber français, les deux. Et je trouve que, parce que dans tout le film de Dupieux, il y a toujours un côté surréaliste, on a l'impression qu'il est complètement libre, ce qui est génial, mais parfois, ça peut être un peu ennuyant. Là, je trouve que le film est un peu tenu, justement, par cette amitié qui finalement, c'est une amitié assez belle. Et malgré tout ce qui se passe, oui, on a entendu Adalex Archopoulos qui joue une victime d'un accident de ski. Il y a mouche géant, il y a plein de choses, mais il y a quand même cette amitié entre ces deux potes qui tient le film pour moi.
Alex, l'Espagnol, a choisi un film espagnol réalisé par trois personnes, incroyable.
Tout à fait.
Qui s'appelle Une vie secrète, qui est un thème absolument passionnant de ces hommes et ces femmes qui se sont cachés chez eux, sous le franquisme.
Exactement, c'est l'histoire d'un partisan de la République qui décide de se cacher dans sa propre maison, avec l'accord, avec la complicité de son épouse, par prendre des représailles de l'autre bord, du bord franquiste. Et du coup, le film raconte toute la guerre d'Espagne, et surtout toute l'après-guerre, car ce processus a duré très longtemps, depuis la cachette que ce partisan s'est construit chez lui. Et pour moi, c'est un film remarquable, l'un des plus intéressants que j'ai vu en cinéma espagnol depuis quelques années, qui participe aussi d'un processus de relecture de la mémoire historique en Espagne, qui reste très fragile, car c'est toujours un sujet tabou dans mon pays. Donc voilà, ça participe de ces mouvements auxquels on peut parler d'autres films, comme le documentaire Le silence des autres, ça va un peu dans la même ligne.
On va écouter un extrait d'Une vie secrète.
Enrique, al André, al Quijo.
dentro.
Sí.
¿Está bien? ¿Necesita algo?
¡Silencio!
Vous associez ce film Une vie secrète à un documentaire là, vous...
Oui, je parlais du documentaire Le silence des autres, oui. Produit par Almodovar, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il était sorti il y a 2 ou 3 ans, et ça parlait justement de toute la loi du silence, oui, qui a été instaurée, oui, en Espagne, oui, autour de la mémoire, oui, historique. Oui. Et voilà, il y a de plus en plus de films de réalisateurs qui ont, je ne sais pas, une trentaine, une quarantaine d'années, qui commencent à revoir ces sujets d'une manière assez différente. Dans ce cas, c'est 3 réalisateurs basques qui s'appellent Jon Garaño, Aitor Arregui et José María Goena.
Merci de nous avoir pris le temps. Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Laurent, vous avez choisi un film d'animation qu'on aime beaucoup, c'est Calamity, une enfance, de Marta Jane Canary.
Oui, signé Rémi Chaillet. Ouais. Bon, l'animation française, on sait maintenant que c'est vraiment l'une des plus intéressantes au monde, pardon Jordan Minzer. Et donc ce film en est l'un des reflets. C'est effectivement comment une légende est née, comment cette jeune fille va devenir la cow-boy la plus célèbre de l'histoire de l'Ouest américain, avec de formidables aplats de couleurs. C'est vraiment une palette de couleurs incroyable. C'est très, très beau. Il y a une volonté de rendre l'Ouest américain magnifique. C'est en quelque sorte le portrait d'une jeune fille, non pas en flamme ou en feu, mais en armes, futurement en armes. Et c'est très, très beau. C'est vraiment, en plus, c'est le seul film, hein, parmi les 40 qui vont sortir au presse, destiné aux enfants. C'est un peu dommage, mais enfin, au moins, ils auront la chance de le voir celui-là.
C'est bon. Ils sont loin maintenant. Ça va, j'ai bien vu que c'était le shérif que vous vouliez fuir. Mais la prochaine fois, tu demandes. C'est compris ?
Ouais, non, mais c'est parce que...
Et tu ne me réponds pas. Rarement vu une fille aussi mal élevée.
C'est pas une fille.
Bien sûr que c'est une fille. N'est-ce pas ? Faut vraiment être un garçon pour pas s'en rendre compte.
Quoi, c'est vrai ? T'es une pisseuse !
Tu me traites pas de pisseuse !
Eh ben pourtant, t'en es bien une à me raconter des salades depuis le début. Pisseuse ! Ah ! Ah ! Oh !
Ça suffit. Maintenant, vous descendez.
C'était Calamity, pardon. Une enfance de Jane Canary. Marta Jane Canary. Pardon,
elle parle bien français à Calamity.
Oui.
Mais nous sommes très logiques en France.
Vous avez vu ce film, Jordan, parce qu'il est super joli.
Oui, j'ai beaucoup. Ouais, ouais. Surtout, j'ai trouvé que le paysage, le dessin, la couleur magnifique.
Ouais. Esthétiquement magnifique.
Samuel Dior, vous avez un deuxième choix. Il est aussi français. C'est un film fragile. Il s'appelle L'étreinte.
Oui, c'est un vrai nouveau film, celui-là.
Oui, oui.
Premier film de Ludovic Bergerit, un comédien. Le film marque le vrai retour d'Emmanuel Béat au cinéma dans un vrai premier rôle, parce qu'elle s'était fait très très rare depuis 7 ou 8 ans. C'est l'histoire, pour reprendre le titre d'un des grands films d'Emmanuel, dans lequel a joué Emmanuel Béat, c'est l'histoire d'un cœur en hiver qui va se réchauffer.
Ouais.
Emmanuel Béat joue le rôle d'une femme d'une petite cinquantaine d'années, qui vient de perdre son mari et qui revient vivre dans la maison familiale à Nauffle-le-Château, bien connu des amateurs de Marguerite Duras.
Elle reprend
des études d'allemand à la faculté, et donc on va la voir. On se dit qu'elle va, elle rencontre des étudiants beaucoup plus jeunes qu'elle, forcément. Alors on se dit qu'il va y avoir une histoire, genre ça va être la cougar. Or pas du tout. Elle va plutôt essayer de retrouver des relations sentimentales avec des hommes plutôt de son âge. Mmh. Et ça montre à la fois la difficulté des relations à l'ère de Tinder aujourd'hui, et puis comment accepter son âge aussi, son statut. Le film est très délicat, très juste,
très touchant,
et très touchant, ouais. Et une belle sensualité, mais juste ce qu'il faut. C'est vraiment un très joli film.
What a life, what a night, what a beautiful, beautiful ride.
What a Life, bien sûr, c'est la BO de Drunk, c'est mon choix, mais bon, je pense que c'est le choix de pas mal de gens autour de cette table. Il a eu le temps, moi, un petit peu moins Alex, il a eu le temps de faire 200 000 entrées, mais c'est pas assez, parce que c'est un film pareil, aurait pu faire le plein. J'espère qu'il va récupérer sa mise à partir de mercredi prochain, Samuel.
Et puis surtout qu'il est dopé par le flot de récompenses qu'il a obtenu. Oscar du meilleur film en langue étrangère, ouais. César du meilleur film étranger.
Dopé, c'est le bon mot.
Voilà. Et en plus, il faut vraiment aller voir ce film, parce que c'est un film, malgré la gravité du sujet, que je trouve profondément euphorisant.
Ouais.
Ça met la pêche. Il y a cet acteur quand même extraordinaire qui est Mads Mikkelsen. Qui est, mais d'un magnétisme, d'une humanité.
Là on est d'accord.
Et aux Oscars, Thomas Winterberg dit merci d'avoir récompensé un film où 4 hommes blancs se saoulent la gueule et incitent des jeunes à boire. Mais en même temps, c'est une leçon de vie, non, c'est merveilleux. Un deuxième choix pour Jordan. C'est aussi un film français, c'est Slalom.
Oui, premier film de réalisatrice Charlène Favier. Oui. Et d'ailleurs, un film qui était dans la sélection cannoise.
Oui, qui avait le label de Cannes. Ouais.
De 2020. Oui. Mais qui va enfin sortir. Et c'est vraiment un film sur une histoire qu'on entend beaucoup parler de ce genre de choses aujourd'hui dans les médias. C'est les abus sexuels commis par des entraîneurs, des coachs contre des jeunes athlètes. Mmh. Et là, c'est dans le monde du ski.
Ouais.
Et donc, il y a l'actrice Noé Habita qu'on avait vue dans Ava de Léa Messius et qui est extraordinaire. Dans ces films.
Ouais.
Et son entraîneur, c'est Jérémy Régnier. Aussi extraordinaire. Une de ses meilleures performances, je trouve ce qui est intéressant dans le film, on a quand même l'histoire de l'emprise de l'entraîneur plus âgé sur la jeune, mais dans l'autre sens, on a l'impression qu'elle aussi s'empare de lui d'une certaine manière, que lui est sous son pouvoir à elle, même si c'est lui qui finit par l'abuser. Et je trouve que cet échange entre les deux est très très bien mis en scène pendant tout le film.
On n'a plus que 15 secondes, il y a un deuxième film que vous recommandez, Laurent, c'est Joseph.
Oui, ben on parle de l'Espagne franquiste, voilà. C'est pour Alex, un dessinateur sur un dessinateur, c'est un très beau film.
Merci à tous les trois d'être venus pour célébrer ce retour dans les salles de cinéma. Vive le cinéma.
Merci à vous.
Les films ressortent le 19 mai prochain. On a confié le générique de fin justement à vos deux choix, Laurent Aurel et Rémi Chaillet. Mais oui, pour cette reprise des salles. Merci beaucoup. Très bientôt. Au revoir.
C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma. Il y a des réalisateurs et des acteurs. Il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs. Les prises de vue sont des prises de son. Georges Delerue a écrit les musiques du générique. Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez. Christophe Magère s'est occupé de la préparation. C'est une émission réalisée par Laurent Thomas et Claire Destacan. Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas. Et moi, Aurel, j'y étais.
Et moi, Rémi Chaillet, j'y étais.